Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
La Fondation HSBC pour l'éducation et Canal Académie vous présentent une émission consacrée à l'association Les Clés de l'écoute. J'ai donc le plaisir de m'entretenir devant les micros de Canal Académie avec quelques-uns des membres de ce sympathique collectif qui s'est impliqué dans un projet d'enregistrement et de réalisation d'un livre-disque dont vous entendrez d'ailleurs plusieurs extraits au cours de cette émission. Un livre-disque dont la fabrication a réuni 116 élèves appartenant à 5 collèges du 93 dans la région parisienne. Dans ce studio, nous accueillons donc Kelitka, qui est comédien, bruiteur, musicien, auteur d'un spectacle intitulé « Tour du monde en 80 voix ». Vous avez travaillé, Kelitka, avec 10 ateliers de mise en voix et bruitage avec la 6e 3 du collège Well à Romainville. Annelise Boutin, illustratrice presse et jeunesse chez Actes Sud et chez Attier, qui a travaillé avec 10 ateliers d'illustration de la 5e 3 du collège Well à Romainville. Nous accueillons également Olivier Salon, qui est écrivain, mathématicien, membre de l'Oulipo. Et vous, Olivier Salon, vous avez travaillé avec 10 ateliers d'écriture avec la 5e 5 du collège Fabien à Saint-Denis. Joanne Molitor, directeur artistique et graphiste. Et vous, Joanne, vous avez travaillé avec 5 ateliers de graphisme et conception avec la 5e du collège Henri Barbus à Saint-Denis. Et auprès de vous, nous accueillons Géraldine Aliberti, qui dans ce collectif est en charge de l'atelier musique. Mais Géraldine Aliberti, vous orchestrez en quelque sorte ce collectif des clés de l'écoute. Dites-nous en quoi votre projet des clés de l'écoute est un projet innovant.
Il est innovant, je pense, dans sa manière. Déjà, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont pas des ateliers sans but précis. Enfin, il y a rarement des ateliers sans but précis, mais c'est souvent des sensibilisations à quelque chose, une participation à. Et là, je pense que le projet, c'est vraiment, c'est les élèves, en fait, qui doivent le faire. Bon, vraiment, s'il n'y a pas l'artiste, le projet ne se fait pas. Enfin, l'artiste de chaque discipline, c'est pas possible. Mais ils sont vraiment à l'origine, en fait, de l'idée. Comme les élèves d'Olivier, c'est eux qui, vraiment qui ont écrit l'histoire. Moi, mes élèves en musique, bon, c'est moins évident, mais c'est quand même eux qui apportent les idées premières sur lesquelles je me base pour écrire. Pareil pour Annelise, qui les fait vraiment dessiner. Et pareil pour Johan, c'est eux qui vont décider de la mise en page.
Mais à la base, Géraldine, votre projet, c'est de mettre en relation un professionnel qui travaille actuellement dans la discipline, dans son choix de métier, en contact avec des garçons et des filles de classe de 5e à peu près.
Oui, 6e, 5e, 4e. Il y a ces trois niveaux dans le projet. Oui, bien sûr, c'est une ouverture des métiers. Hein. Comme j'ai dit aussi, c'est vraiment une découverte des métiers de l'ombre. On a vraiment envie de leur montrer que tous ces métiers-là sont aussi magiques que d'être chanteuse star à la télévision. En fait, ce projet, il est original dans sa façon d'être réalisé, en fait, dans sa pluridisciplinarité, parce que voilà, c'est vraiment transversal. Et comme nous, c'est une association, enfin un collectif surtout de musique, enfin autour de la musique. Moi, j'aime beaucoup en fait le rapport de la musique avec les autres arts, avec la littérature, avec l'illustration. C'est peut-être aussi par pudeur ou par humilité de jamais mettre la musique sur un piédestal, alors qu'elle est, c'est un art majeur. Mais j'aime bien en fait cette concordance, cette correspondance entre les arts.
Établir des ponts entre les différentes pratiques artistiques.
Oui.
Alors, votre parcours, Géraldine, vous êtes musicienne, racontez-nous. Et comment ce projet a-t-il germé dans votre esprit? Pourquoi intervenez-vous en milieu d'éducation nationale? Comment y êtes-vous reçue? Racontez-nous comment toute cette chose-là a pu se mettre en place.
En fait, il y a quelques années, j'ai été vacataire dans des collèges. J'étais assez jeune, j'avais 23 ans. Et donc, pendant 2-3 ans, j'ai été professeure de musique en collège et... Bon, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais pas envie de faire ça, alors que c'était, je pensais que c'était ma passion de transmettre la musique. Moi, la musique m'a vraiment aidée dans mon enfance, à me hisser un peu plus haut en tout cas. Et j'avais envie de donner ça aussi à des enfants issus de quartiers populaires. parce que je trouve que ça aide, en fait, quand on est dans ce milieu-là, d'avoir une passion à laquelle se raccrocher. On vit déjà mieux son adolescence, on arrive mieux à se construire et à grandir et à trouver une place plus tard dans la société. Donc c'était vraiment une vocation, je pense, depuis l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, mais j'avais toujours envie de faire ça, mais pas dans le cadre d'être professeur. Donc c'est vrai qu'après, j'ai travaillé beaucoup pour les concerts éducatifs, dans la pédagogie musicale, à la Cité de la Musique notamment. Et puis chez Mezzo, la chaîne de télé, j'ai aussi participé à élargir le public de Mezzo, d'aller chercher aussi un public plus jeune. Et donc, quand on a créé le collectif des Clés d'écoute à plusieurs élèves du master de médiation musicale avec l'ONDIF, l'Orchestre National d'Île-de-France, voilà, on a créé ça et vraiment notre métier, en fait, ce qu'on défend dans les Clés de l'écoute, c'est la pédagogie musicale auprès d'ensembles, d'orchestres. Mais c'est vrai qu'on a envie aussi de monter nos propres projets. Donc, c'est pour ça que ce projet-là annuel est notre premier projet donc, qui nous ressemble, qu'on assume entièrement. On y a pensé il y a peu, mais de faire de nos projets annuels, de leur donner aussi une envergure commerciale, ça nous permettrait de financer d'autres projets et d'avoir un certain autofinancement, enfin, que je trouve assez intelligent en fait, dans des associations, puisque ça ne marche plus. Enfin, il n'y a plus de subventions publiques de la part de l'État pour les associations. Donc moi, je suis pour, de toute façon, une autonomie financière et donc financer d'autres projets de ce caractère.
Et quel est l'accueil de ce type de projet au sein de l'Éducation nationale?
C'est très marrant parce qu'on a été contactés il y a une semaine par la maison d'édition de l'Éducation nationale et qui ont été très interpellés par notre façon de faire et qui voudraient faire un livret explicatif pour les professeurs, enfin pour tout type de structure, pour montrer comment on a réussi à réaliser ce projet. Donc pas au niveau artistique, mais au niveau logistique, en fait, organisation. Ils nous ont dit, mais comment vous avez pu faire un projet aussi ambitieux à une si petite équipe?
Alors justement, vous parlez de petite équipe, vous êtes combien, Géraldine Aliberti?
Dans les Clés de l'écoute, alors le noyau, donc on va dire administratif, enfin le noyau de l'équipe, c'est donc Vaïdi Inota chargée de projet, Solène Klapp-Korfa chargée de communication et moi-même au niveau artistique. Et après, il y a des médiateurs musicologues, journalistes et compositeurs qui travaillent avec nous aussi, donc qui sont Édouard Fouré-Colfuti, Clément Lebrun, Séverine Morfin, Antoine Péker, Marie Starenkevitch, et je pense que je n'en oublie pas. Notre structure est assez originale en fait dans son identité, puisque c'est un collectif au départ de musicologues, donc en fait de tout ce qui est autour de la transmission de la musique. Donc ça, il y a beaucoup de services culturels de pédagogie musicale à la Cité de la Musique, au Châtelet, voilà, dans toutes les grandes structures. Et là, c'est vrai que c'est un collectif indépendant d'une structure comme ça. Donc c'est vrai que c'est ça qui est nouveau. Et puis c'est qu'on monte des projets, c'est vrai, assez importants en étant une petite structure.
Géraldine Aliberti, dans ce collectif et dans ce projet, les Clés de l'écoute, vous êtes en charge de l'atelier musique. Pouvez-vous nous le décrire?
Ce qui n'est pas évident par rapport aux autres ateliers, c'est le principe, c'est que les élèves proposent des idées et que j'écrive la musique. Donc je viens toujours avec des musiciens également improvisateurs pour pouvoir rebondir à tout moment. Donc je viens avec un trio à cordes où il y a Maëva Lebert au violoncelle, Séverine Morfin à l'alto, Aurélie Branger au violon. Il y a aussi Boris Boublil au clavier, il y a Amar au vibraphone, Antoine Bergeau à l'électro. Il y a deux chanteurs aussi de renom qui sont Rosemary Stanley du groupe Moriarty et John Greaves, un chanteur anglais avec une très très belle voix. Donc je viens pas avec tout le temps tous les musiciens, mais je viens souvent avec le trio à cordes ou bien le vibraphone plus les claviers et les chanteurs. Les élèves apportent en fait le matériau de base, donc c'est-à-dire à propos de l'histoire. Bah, par exemple, il y a une tempête dans l'histoire, à un moment Tom et Mia croisent une tempête. Ils m'ont demandé une musique un peu angoissante, un peu vive, avec peut-être plus de cordes à ce moment-là et moins de claviers. Donc voilà, j'essaye d'écrire comme ça et c'est vrai que à ce moment-là, donc j'écris pendant une semaine chez moi, je donne aux musiciens et puis la semaine d'après, ils vont beaucoup travailler sur la structure de la pièce. Donc je leur apporte des éléments écrits et puis là, à ce moment-là, ils font ça comme une sorte de puzzle musical en fait. Pareil pour la chanson, en fait, je leur ai donné plusieurs couplets et ils ont décidé parmi ces couplets lequel servirait de refrain et quelle serait la structure aussi de cette chanson d'amour entre Tom et Mia.
Thank you. malchance ou qu'il aille une tragédie arrive, malgré sa malchance, Mia l'aime bien.
Mes aventures, à chaque aventure, il était une princesse nommée Mia, arc-en-ciel toujours un peu rosé.
Khalidka, merci d'être avec nous sur ce plateau de Canal Academy.
Khalidka est au collège Pierre-André-Well, donc avec la professeure de français Anne Despert et la classe de 6e 3.
Artiste, comédien, bruiteur, musicien, one-man show, c'est beaucoup pour un seul homme. Comment l'aventure avec les clés de l'écoute a commencé? Quand pour vous? Et en quoi consiste votre rôle?
L'aventure a commencé il y a quelques mois et je crois que c'est après qu'ils aient entendu parler de toutes ces qualités rassemblées en moi-même. Voilà, j'ai été contacté par Géraldine Aliberti qui m'a dit « Voilà, il me semble que sur un projet qu'on a, tu sois la personne qu'il nous faudrait pour diriger des élèves à lire des textes et à faire des bruitages et à libérer un peu leur expression vocale et inventive. » Donc je lui ai dit « Bah, ça me plairait bien. » Donc voilà, c'est un genre de projet qui me semblait vraiment très intéressant. Et j'ai accroché les wagons, parce que c'est un wagon, c'est une suite de petits wagonnets assez importantes, quoi. C'est vraiment une structure incroyable, quoi, qui draine beaucoup de monde, qui fait plein de projets. Et voilà, je me retrouve avec toute une équipe.
Alors moi, j'ai noté que ce projet comportait 5 disciplines, écriture, composition musicale, illustration, mise en voix et bruitage et graphisme. Alors on enlève le graphisme, l'écriture, il reste la composition musicale, l'illustration, la mise en voix et bruitage. Vous intervenez quand?
Alors j'interviens sur le texte. Une fois que le texte a été écrit donc, par d'autres élèves que je n'ai jamais rencontrés, mais on a eu les textes au fur et à mesure. On a eu les textes sous les yeux, on a commencé à les lire, à les décortiquer et à trouver des sonorités pour faire jouer des enfants qui n'ont jamais fait de comédie, qui ne se sont même jamais enregistrés. Donc l'objectif était de leur faire sortir d'autres sons que la simple lecture avec les hésitations. C'était pas une mince affaire, mais voilà, il y a quand même des pistes qui sont ouvertes pour certains élèves. Donc il y en a certains qui ont vraiment des difficultés, mais l'expérience déjà les a bien entraînés et leur a fait découvrir la respiration, comment utiliser la voix autrement que sur nos modes habituels ou par réflexe. Donc on a fait, avant d'avoir les textes d'ailleurs, des jeux de voix, des jeux de souffle, des petits jeux d'acteurs. Donc ils étaient assez surpris parce que ça demande un travail de clown, d'acteur. Donc c'était très complexe à mettre en place et à leur faire accepter ce jeu.
Travail de professeur d'art dramatique en quelque sorte, oui. Mais c'était la première fois que vous entraîniez des jeunes de cet âge-là?
Non, j'ai fait ça de nombreuses fois dans le cadre de mes différentes créations. J'ai fait pas mal d'actions culturelles avec les personnes qui géraient ça dans les structures, ou même pendant les tournées en fait. Je fais souvent des ateliers pour faire découvrir mon travail de bruiteur, musicien, chanteur. Donc avec des machines, enregistrement de son en direct, en temps réel.
Et pour mener à bien ce projet des clés de l'écoute, vous avez eu combien de temps? Le nombre d'ateliers avec les mêmes jeunes?
Sur le papier, nous avions prévu 10 séances. Et là, on arrive à la fin des 10 séances, mais c'est 10 fois 2 heures. 2 heures qui sont entamées par toute l'organisation, le temps de monter en classe, le temps d'en sortir, le temps de travailler aussi la discipline, parce qu'on est dans des zones qui sont assez difficiles, vraiment très difficiles. Donc on a un temps vraiment très très serré, très restreint. Donc voilà, c'était une chose un peu difficile à gérer, mais...
Combien de jeunes?
On a une classe de 20...
De 21, je 21, pense. 21, oui. 21, puis au-delà de ces horaires-là d'atelier, s'ajoutent aussi les heures d'enregistrement. Donc Khalidka va enregistrer avec cette classe jeudi prochain, jeudi 7 avril, et toute la matinée. Et après, peut-être, ils vont encore revenir à l'enregistrement, au studio, pour la suite. Parce qu'il y a aussi toute la partie du bruitage du livre.
Ouais. 10 séances, ça vous permet de vous installer au sein d'un groupe et de les connaître individuellement.
Ah, alors, oui, c'est ça, ouais.
Alors, le plaisir de les voir évoluer, en quelque sorte, selon vos conseils, selon...
Oui, parce qu'il y a vraiment des personnalités qui ressortent. Il y a des élèves qui ont une concentration et une écoute vraiment très intéressée par le projet et qui vraiment donnaient d'eux-mêmes. Ils venaient avec le texte déjà appris, déjà travaillé. Et donc, il y a certaines personnalités comme ça qui ressortent. Et même dans ces classes, il y a aussi des personnalités qui sont plutôt envahissantes, qui cherchent à attirer l'attention, qui sont vraiment très perturbées. Et c'est parmi ces personnes-là qu'on a eu les plus belles propositions au démarrage. Au niveau du jeu de lecture, d'une lecture un peu exacerbée avec une exagération de l'articulation, montant le volume. Il y avait des propositions vraiment très très belles.
Je crois que ça l'a été aussi dans toutes les disciplines, en fait, des surprises de ce genre-là. Des élèves vraiment qu'on croyait, qui sont un peu dits perdus par le collège, par la structure administrative, et en fait qui ne le sont pas du tout, qui se révèlent assez étonnants lors de projets comme ça.
Sept larges rubans s'étalent devant eux. Couleur ébène.
Celle du bois dense de l'Afrique.
Celle du charbon.
Celle de l'intérieur des pneus.
Celle des cauchemars.
Couleur marron.
Celle des cheveux emmêlés.
Celle des yeux illuminés.
Celle du bois flottant.
Couleur dorée.
Celle des grands fauves.
Celle du soleil au crépuscule.
Celle des pépites merveilleuses.
Couleur rose.
Celle de la barbe à papa.
Celle des flamants.
Celle de l'amour qui naît.
Couleur ivoire.
Celle des châteaux.
Celle des défenses d'éléphants.
Celle du luxe et celle de la coquille d'œuf.
Couleur pourpre.
Celle du sang noir.
Celle des poutres de feu.
Celle des lèvres enflammées.
Couleur turquoise.
Celle du ciel d'été sous les tropiques.
Celle des oasis et des atolls.
Celle de l'amitié.
Le fait d'enregistrer les élèves et de leur faire entendre leur voix, ça fait tout de suite un effet assez incroyable. Et d'ailleurs, on a réussi à obtenir une écoute globale de toute la classe après le premier test d'enregistrement, avec un petit enregistreur numérique, une mini sono. Et pour tout ce qui est approche du calme, donc quand ils rentraient en classe avec un bruit, un fracas, les clés qui tombent, les sacs, la prof qui leur demande de se taire avec vraiment gros volume, donc j'ai enregistré tout ça. Et pour commencer la séance, j'ai branché le poste et je leur ai fait écouter leur entrée. Je m'attendais à un effet complètement inverse, que ça les excite. Et en fait, ça a créé un silence complet, quoi. Ils n'en revenaient pas, quoi, d'entendre ce bruit qu'ils produisaient, quoi. Ils n'en avaient pas conscience.
L'intensité du son, ce volume sonore.
Oui, parce que chacun est préoccupé par le copain qui l'a bousculé, qui lui a tiré le truc, le sac qui est tombé, le stylo qui a été planté dans le dos. Et c'est ça, sans arrêt.
Donc c'est les clés de l'écoute. Les clés de l'écoute à l'écoute. Du voilà. Bruit que je peux émettre, moi, quotidiennement.
Ça amène ça.
Écouter. Apprendre à écouter le silence comme le bruit, le son. Qu'est-ce que le son dans ma vie? Et à votre avis, alors, justement, par rapport à ces jeunes, le fait de s'écouter, le fait de d'avoir ce décalage par rapport au vécu et par rapport à ce que le fait de s'écouter, de se découvrir dans une dimension différente, ça peut leur apprendre beaucoup de choses.
Ça apprend énormément, ça amène à avoir cette écoute intérieure qui permet de pouvoir changer peut-être les choses, de contrôler ça, si on parle que de la voix et de la musique. C'est à partir du moment où, ce que je leur disais en fait, puisque... Pour la plupart, en entendant leur voix lue, en lecture, chacun avait exactement la même... Enfin, ils avaient tous la même réflexion, c'est « Mais c'est ma voix, mais elle est nulle, mais c'est pas possible !» Et à moi de leur expliquer qu'à partir du moment où on apprivoise sa voix, et en racontant mon expérience personnelle, à partir du moment où on l'enregistre, on l'écoute et on l'apprivoise, on l'accepte et à partir de là, on peut la moduler, la changer et la travailler.
La respiration.
Et le souffle.
Très important.
C'était une des premières choses qu'on a abordées.
Ça a été la découverte, non, pour eux, non?
Ben oui, pour eux. Et en fait, c'est un partage d'expérience. Toutes les rencontres avec les élèves qui participent au projet de clé d'écoute ou les gens que j'ai rencontrés au travers des spectacles, une des premières choses qui est transmise ou qui me semble essentielle à transmettre, c'est l'importance de l'inspiration. Et souvent en musique, en fait, avec même les musiciens, en fait, quand on place un silence, cette valeur de silence n'est pas vraiment vécue. On attend les notes et on joue que les notes. Alors que le silence fait partie de cette musique. On le ressent plus en chant, mais pour les musiciens qui interprètent des choses.
En effet, le fond de l'estomac de monstre glisse affreusement. Il fait naturellement tout noir.
Ça bouge de partout, ça remue.
Et il fait froid.
Ils essayent tous trois de marcher, mais ils trébuchent à chaque pas. Ils marchent en tous sens, ils dérapent, ils tombent, perdant peu à peu espoir.
Mia s'est encore fait mal à la cheville.
Tom ?
Oui, Mia,
ça va maintenant ?
Ça va et toi ?
Merci, ça va très bien.
Tu aimes notre aventure ?
Oui, et je...
Tu quoi ?
T'aimes.
Et c'est vrai que le projet, c'est vraiment aussi, au-delà d'un projet artistique et pluridisciplinaire, c'est un projet de découverte des métiers, justement, comme vous en parliez tout à l'heure, qui sont un petit peu fascinés par les one-man shows, par tout ce qui est devant la scène. Nous, on avait envie de leur montrer un métier, en fait, un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans les coulisses, et qui, ça a autant de charme, en fait, sinon plus, en fait. dans la réalisation. Puis aussi qui s'interroge sur la cohérence en fait d'un discours, enfin de l'art, en musique, en comédie, enfin que rien n'est laissé au hasard et que tout a un sens en fait. C'est aussi ça l'objectif. Enfin, il y a plusieurs objectifs qu'on s'est fixés de base. Et aussi le fait qu'ils se rendent compte que c'est un projet à vase communicant, où chaque discipline a son importance, il n'y en a pas une moins importante que l'autre. Et donc dans tous les métiers, parce que par exemple le métier de graphiste, ils ne le connaissaient pas du tout, et de se rendre compte en fait, qu'il y a un atelier de graphiste, et voilà, donc sans ça, il n'y a pas de livre disque, il n'y a pas de logique en fait entre le texte et l'image. C'est vraiment l'importance du mot sur l'image.
Annelise Boutin, en tant qu'illustratrice presse et jeunesse, vous allez nous expliquer un peu quel a été votre parcours en quelques mots, et puis comment vous vous êtes impliquée dans ce projet des clés de l'écoute. Depuis combien de temps l'aventure a commencé pour vous et qu'est-ce que vous proposez aux jeunes?
Moi, je suis illustratrice indépendante en fait, donc je travaille depuis 10 ans comme illustratrice et j'ai commencé à travailler principalement en presse quotidienne, donc pour Libération, pour Le Monde. Et puis par la suite, en fait, j'ai commencé à travailler aussi en édition générale, donc ça peut être des couvertures de romans ou en édition jeunesse, en fait. Donc j'ai à mon actif, je ne sais plus, une dizaine d'ouvrages, en fait, illustrés pour la jeunesse.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet des Clés de l'écoute ?
Donc ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de pouvoir mener un projet de A à Z et d'être réellement sur un projet de livre, en fait, et donc d'illustration d'un texte qui allait naître et qui allait aboutir à un objet imprimé. Voilà, avec toutes les difficultés que ça allait comprendre, parce que moi, je suis habituée à travailler dans la solitude de mon atelier. En général, les illustrateurs travaillent seuls. Et là, on allait se retrouver à faire un livre à 25 personnes et en très peu de temps. C'est-à-dire que déjà, quand on a un mois ou deux pour faire un livre dans des conditions réelles, c'est très, très court. Donc là, en 20 heures, c'est presque une gageure, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et au niveau du matériel mis à votre disposition, parce que je présume que pour...
Alors, il y avait du matériel déjà à disposition dans la classe, en fait, dans laquelle j'intervenais. Donc, les 5e 3 du collège Pierre-André Houël avec l'enseignante Jacqueline Vaédé-Grouas. Et puis, il y avait un budget aussi alloué par les Clés de l'écoute, en fait, pour l'achat de matériel. Après, en fait, c'est moi qui ai décidé avec quel type de médium nous allions travailler. Donc, n'ayant pas le texte à disposition, puisqu'il se terminait d'être écrit quand moi-même j'ai commencé les ateliers avec ces 5e, ça a été un choix extrêmement arbitraire, en fait. Moi, je travaille beaucoup en papier découpé. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de leur faire profiter de mon savoir-faire et de mes envies. L'autre chose aussi, c'est que je savais que c'était une technique qui permettait de créer des éléments épars. Et du coup, on pouvait travailler à plusieurs. Et je pouvais aussi reprendre les choses pour éventuellement les remettre en page ou les recomposer, en fait. Donc voilà, donc j'ai acheté ce matériel avec le budget alloué.
Ça permet aussi une unité. Ce qui était difficile, c'est d'avoir un style commun et une unité graphique avec 22 qui travaillent différemment. Et c'est vrai que le fait d'imposer une technique permettait cette unité. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, jusqu'à une date assez avancée, en vérité, je ne savais pas si on allait être sur une forme longue ou des formes courtes. Donc au fur et à mesure du temps passant et des ateliers effectués par Olivier, j'ai compris qu'il allait s'agir d'une forme longue. Et donc, pour une forme longue, il faut en effet avoir une cohérence graphique d'une planche à une autre. Donc, trouver aussi des systèmes graphiques pour que ça puisse fonctionner.
Alors, Géraldine, décrivez-nous le résultat complet à obtenir.
C'est vraiment le format livre-disque. C'est exactement le format 20-20, les vieux disques vinyles qu'on avait de Walt Disney dans les années 80. En 28 pages, on va dire, pour que rentre un vinyle 45 tours. Donc, c'est vraiment cette taille-là de livre-disque.
Alors, tout commence avec Olivier Salon.
Exactement, tout commence avec Olivier Salon.
Alors, Olivier Salon, vous êtes écrivain, mathématicien, membre de l'Oulipo. Racontez-nous, c'est quoi l'Oulipo ?
L'Oulipo, c'est un groupe d'écrivains, une espèce de laboratoire qui a été conçu, inventé par Raymond Queneau et François de Lyonnais en 1960. Groupe auquel se sont adjoints un certain nombre d'écrivains au fur et à mesure des années et des décennies, puisque le groupe a maintenant plus de 50 ans. Par exemple, Italo Calvino et Georges Perec. On va dire que le maître mot de l'Oulipo et le but principal est d'inventer des nouvelles formes littéraires, partant du principe que la forme, par exemple, poétique du sonnet est une forme très contrainte et qui contient en elle une grande beauté, laquelle a séduit les poètes de toute l'Europe et pendant plusieurs siècles. Eh bien, l'Oulipo s'interroge et se dit pourquoi se limiter aux formes poétiques, par exemple, existantes, pourquoi ne pas en inventer de nouvelles ? Voilà. Donc, le propos de l'Oulipo, c'est d'inventer de nouvelles formes littéraires. Et le support, le médium par lequel on passe, c'est la contrainte littéraire. Donc, on écrit, enfin, l'Oulipien écrit en s'imposant au préalable une certaine forme qu'il a souvent inventée lui-même.
On est aidé en étant mathématicien ?
On est aidé, ça n'est pas une condition nécessaire. Il y a à l'Oulipo des mathématiciens et écrivains, je pense à Jacques Roubaud, immense poète. Il y a des écrivains qui ne sont absolument pas mathématiciens, je pense à Michel Grangot, une femme poète, je pense à Jacques Jouet. Il y a des mathématiciens qui ne sont pas écrivains. Vous voyez, il y a un peu toute forme de combinaison. Et les mathématiques peuvent aider en ce sens que les structures qu'elles contiennent en elles peuvent se déplacer vers le champ de la littérature.
C'est votre expérience personnelle ?
Oui, mon expérience, effectivement, me permet de l'affirmer.
Et l'inverse peut exister ? Un Oumapo, par exemple ? Un ouvrage de mathématiques potentielles ?
Oui, bien sûr. Dès que François Le Lyonnais a eu l'idée d'inventer l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, il a aussitôt imaginé d'autres ouvrages, des ouvrages de toutes sortes de disciplines. Dès que l'homme invente quelque chose, on peut imaginer un nous expo. Un
Ouxpo. Alors, il y a l'Oubapo,
il y a plusieurs ouvrages qui existent et qui sont très actifs. L'Oubapo, l'ouvrage de bande dessinée potentielle, l'Oupimpo, l'ouvrage de peinture potentielle. Il y a des ouvrages qui sont un peu en jachère, il y a des ouvrages en gestation. Il y a l'Oucuipo, l'ouvrage de cuisine potentielle, l'Oujarpo, l'ouvrage de jardin potentiel, comment dessiner, concevoir des jardins.
Quel ouvrage avez-vous pratiqué auprès de ces jeunes esprits, ces jeunes enfants? Alors,
eh bien, c'est toujours au sein de l'Oulipo que nous travaillons, mais disons que nous avons exploré un certain nombre de contraintes. La thématique que j'avais proposée était le thème du miroir. Partant de cette idée du miroir, parce que le miroir peut se décliner aussi bien en littérature, aussi bien en musique, aussi bien dans la partie graphique et illustration, le miroir, c'est un thème un petit peu fédérateur de l'ensemble des coordonnées du projet. Alors, pour décliner le miroir sur le plan littéraire, je me suis adressé à toutes les formes possibles du signifié et du signifiant. Le signifiant, c'est tout ce qui constitue les éléments du langage, mais pas du point de vue de leur contenu sémantique, pas du point de vue de ce qu'ils veulent dire, mais du point de vue de la manière dont on les aborde. Quand on aborde une lettre, comment est-elle faite ? A-t-elle une jambe, une hampe, etc. Et la première idée, c'était d'essayer de déterminer les lettres miroir. Les lettres miroirs sont des lettres qui sont invariantes par rapport à une symétrie verticale. Autrement dit, des lettres qui, disons écrites en majuscules, sont identiques quand on les regarde dans un miroir.
Le A ne change
avec
pas.
Un miroir
voilà,
vertical.
Exactement.
On
a,
I non plus.
Voilà. Alors, on a avec une police de caractères donnés, on a étudié cela avec les élèves, on a trouvé les lettres invariantes et avec ces lettres, on a fabriqué un certain nombre de mots. Des noms propres ont surgi, parmi lesquels deux prénoms, Tom, T-O-M, et Mia, M-I-A. Et effectivement, si on regarde chacune des lettres, non pas les mots, mais si on regarde chacune des lettres dans un miroir, on retrouve le T, le O, le M, le I et le A. Voilà, de la même manière. Donc, première idée, utiliser ce signifiant sur l'invariance par symétrie dans un miroir. Mais, bien entendu, on a utilisé beaucoup d'autres éléments donc, d'idées, d'astuces, de contraintes. Je pense à la forme boule de neige, par exemple. Nous avons utilisé les boules de neige, c'est-à-dire écrire un texte qui commence en étant très court, un poème très court au début, qui vient en s'évasant, et puis qui, arrivé à une taille maximale, commence à décroître. Voilà, donc une espèce de poème en forme de losange, si vous voulez. Donc là aussi, il y a une idée de symétrie.
Une sorte de crescendo numérique et décrescendo numérique, enfin, voilà. Du nombre de mots.
Du nombre de mots, voilà. Ça s'appelle une boule de neige de mots. Autre idée, nous avons travaillé sur le palindrome. Le palindrome est une phrase qui se lit indépendamment de la gauche vers la droite en lecture ordinaire ou bien de la droite vers la gauche, lettre à lettre. Si je dis la phrase « engage le jeu que je le gagne », eh bien, si on démarre par la droite, on retrouvera les lettres E, N, G, A, G, voilà, qui forment la fin de « gagne » et qui forment le début de « engage ». Donc, on a travaillé sur le palindrome et on est même parvenu à un titre possible de notre ouvrage qui est « Tom aime Mia mot ». Mot, M-O-T. Eh bien, « Tom aime Mia mot » est à la fois un palindrome, est à la fois écrit uniquement avec des lettres miroirs Et enfin, évoque une histoire d'amour entre Tom et Mia, puisque telle a été l'invention de
Puis une assonance en M aussi, avec Tom, M, Mia, comme si tu allais dire à mi-mot ou
Voilà, on a joué aussi sur les sons, et Géraldine le signale, on a joué aussi sur les sons, effectivement, les allitérations, les assonances, c'est-à-dire des répétitions fréquentes de certaines sonorités, de phonèmes. On a joué sur un principe de mur, dans la narration, un mur qui fait écho, et avec une idée de reprise de l'écho en déformant légèrement. Donc ça, ce sont des principes d'homophonie, de répétition d'une phrase en la déformant légèrement, mais on conserve à peu près la structure sonore de la phrase.
Ils cherchent une issue, tâtonnent et se rendent compte que la muraille était close de tous côtés et qu'ils en étaient prisonniers. Ils crient, mais les murailles leur renvoient leurs paroles. L'écho se joue de leur peur, car l'écho est un jeu de rôle, un jeu drôle. L'écho se moque d'eux, car l'écho est un murmure, un murmure. La peur s'empare d'eux, ils hurlent. Est-ce que tu m'entends ? Mais l'écho, répété à l'infini par le jeu de la double muraille, leur retourne.
Est-ce que tu m'entends ?
Muet, prends le temps.
Est-ce que tu m'entends ?
Est-ce que les clés de l'écoute travaillent systématiquement avec les mêmes collèges ?
Non, pas forcément. Après, il y a des affinités qui se créent, forcément. Moi, c'est vrai que la professeure de musique avec qui je travaille cette année, est... enfin, pour ma part, j'aimerais beaucoup retravailler avec elle. Je ne sais pas si c'est le cas, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc elle ne pourra pas nous le dire. Mais oui, enfin, je pense qu'elle est satisfaite. Bah, c'est plus facile, oui, de travailler avec des professeurs dont on a l'habitude. Mais là, pour ce projet-là, c'est notre premier projet annuel. Donc jusqu'à présent, en fait, comme on travaillait avec différents orchestres, c'était les classes qui étaient en lien avec ces orchestres-là dans lesquelles nous intervenions.
Johan Molitor, en tant que graphiste, directeur artistique. Alors, expliquez-nous, racontez-nous un peu votre parcours en quelques mots et comment vous êtes intervenu dans cette aventure des clés de l'écoute.
Moi, je suis donc graphiste freelance, donc indépendant. Donc, ça m'a amené à aborder plein de thématiques différentes. Ce que j'aime, c'est surtout découvrir des projets nouveaux, des nouveaux problèmes, résoudre des choses à chaque fois. Et donc, je suis passé par l'illustration un peu, la mise en page de livres, la mise en page aussi dans le domaine du multimédia. Donc, plein de. À chaque fois, c'est toujours l'histoire de confronter du texte, de l'image pour donner du sens, véhiculer quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé d'amener à ces élèves, donc, qui m'ont été permis de rencontrer par Géraldine et les clés de l'écoute, qui m'a proposé ce projet. Ça m'a tout de suite intéressé parce que je me suis dit, on est dans un monde où l'image est omniprésente. Et d'aller expliquer un peu comment fonctionne une image, comment on peut décoder une image à des jeunes, ça m'intéresse vachement parce que c'est quelque chose qui me préoccupe et qui nous préoccupe tous.
Oui, c'était vraiment l'objectif en fait de cet atelier de graphisme. En fait, on avait vraiment envie d'éveiller un peu l'esprit critique des élèves, pourquoi ils sont attirés par telle affiche, par telle publicité plutôt qu'une autre, et qu'il y a un langage vraiment d'une police graphique. Et je trouve que Johan, dans son premier atelier, a déjà rempli sa mission à 100% parce qu'il les a... enfin fait comprendre que l'association mot-image avait un sens, en fait, avait une direction.
Les élèves sont toujours sensibles à la police.
Je leur imprime les textes à différentes tailles, de différentes façons, et c'est à eux de choisir, de découper dedans, de les coller, de faire des mises en page comme ça. Les illustrations aussi, je vais leur imprimer en plusieurs tailles différentes. Ce sera à eux de cadrer, de faire des choses, et moi, en fait, derrière... Je vais donc mettre en page proprement, faire tout le côté exécutant. Donc, je vais être leur exécutant. Et je crois qu'aussi, ça, c'est quelque chose qui leur parle, parce que c'est leur dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vos idées à vous. Et donc, vos idées, elles valent quelque chose. Et du coup, ça les motive pas mal, quoi.
Oui, alors là, Géraldine, on plonge vraiment dans le projet des clés de l'écoute, puisque l'une des originalités et le contenu pédagogique vise au fait qu'on doit impliquer, les enfants doivent être impliqués dans ce qu'ils font. Vous écrivez souvent interprète ou participant, les enfants exécutent ce qu'on leur demande. Là, on le voit au travers des dires de Johan Molitor, les enfants vont faire leur choix, leur sélection.
Voilà, donc on essaye de les faire choisir le plus possible. Après, c'est vrai qu'on a une autre contrainte, c'est celle qu'on a décidée. On voulait en fait, le tout but du projet, en fait, c'était surtout de faire un objet professionnel, enfin faire un projet comme on le fait d'habitude entre nous, entre adultes, et de faire participer des enfants à cette création-là. C'est-à-dire, souvent, en fait, ce que j'ai jamais compris, enfant, c'est pourquoi on a des livres qui ne sont pas écrits par des enfants, puisque, voilà, ce sont le premier public concerné. Donc, voilà, en montant ce projet-là, on avait vraiment envie de les impliquer, au lieu de les faire les choses dans notre coin, de les faire avec eux. Et donc que ce soit eux qui soient à l'origine des idées et que l'artiste était là pour exécuter ce qu'ils avaient proposé et de mettre en ordre, en fait, de rendre cohérent, en fait, ces idées. Donc vraiment qu'ils s'interrogent sur comment on fabrique tout ça et surtout aussi la patte un peu magique d'un artiste. Comment, avec une idée d'un élève qui est aussi tout aussi génial, parce qu'il y a eu vraiment d'excellentes idées proposées, enfin en tout cas pour ma part en musique, comment, en fait, un artiste arrive à faire jaillir quelque chose de cohérent. J'aime bien ce mot, de cohérence dans l'art. Je trouve ça important.
Moi, je voudrais éventuellement rajouter la chose suivante pour bousculer une idée reçue, c'est qu'il n'y a pas les bons élèves et les mauvais élèves. L'éducation nationale est ce qu'elle est, et je continuerai de la défendre, mais c'est une certaine évaluation des qualités des élèves. Quand nous arrivons avec des projets qui sont extrêmement différents, eh bien, nous sollicitons de la part des élèves des qualités nouvelles. Et des élèves qui peuvent être perturbants dans un cours classique, eh bien, se révèlent comme étant moteurs dans une activité créatrice. Par exemple, lorsque j'ai proposé aux élèves qu'ils me disent ce qu'évoquait un certain nombre de couleurs pour eux, et voilà le fruit de la création collective qui est issue de cette évocation. Donc, nos deux héros sont devant un arc-en-ciel sur lequel ils vont avancer. Et alors, pour eux, les couleurs de l'arc-en-ciel sont les suivantes. Couleur ébène, celle du bois dense de l'Afrique, celle du charbon, celle de l'intérieur des pneus, celle des cauchemars. Couleur marron, celle des cheveux emmêlés, celle des yeux illuminés, celle du bois flottant. Couleur dorée, celle des grands fauves, celle du soleil au crépuscule, celle des pépites merveilleuses. Couleur rose, celle de la barbe à papa, celle des flamands, celle de l'amour qui naît. Couleur ivoire, celle des châteaux, celle des défenses, celle du luxe et celle de la coquille d'œuf. Couleur pourpre, celle du sang noir, celle des poutres de feu, celle des lèvres enflammées. Voilà, ça se décline encore comme ça. Ça, c'est une création collective, vous voyez. C'est-à-dire que les élèves, interrogés collectivement dans la classe, donnent des idées. Telle couleur évoque quoi ? Et bien, voilà ce que ça donne.
Lorsque l'on ouvre la porte de l'imaginaire.
C'est ça. Oui. Ben voilà. Et on est très surpris. Et nous-mêmes qui sollicitons les élèves, nous ne savons pas ce qui va sortir. Et c'est ça qui est assez fabuleux dans ce type de projet.
Moi, j'étais agréablement surprise. J'ai pris, justement, pour la création de la musique, une chanson dans le livre. J'ai pris des acrostiches, en fait, sur les prénoms Tom et Mia qu'il avait fait écrire. Donc, vraiment des textes à contrainte.
Acrostiche, ça veut tout simplement dire que c'est un texte de quelques vers. Mais en relisant la première lettre de chaque vers, eh bien, on lit verticalement un mot ou une phrase, en l'occurrence ici, les deux prénoms de nos deux héros. Donc un poème de trois vers pour Tom, T-O-M, un poème de trois vers pour Mia, M-I-A.
Voilà. Donc pour Mia, il y a une petite fille qui a écrit « magique, inoubliable, admirable ». Pour Tom, il y a eu « toi, moi, eux ».« Orange sont ses cheveux, mer de couleur sont ses yeux ». Voilà, j'ai trouvé ça, enfin, tous ces textes sont très très jolis en fait.
Merci à tous et à toutes.
Merci
d'être
à vous,
venus jusqu'au micro de Canal Académie et que l'aventure continue pour les clés d'écoute. Merci à tous.
Eh ben merci
beaucoup. Également.
Toi, moi, orange sont ses cheveux, mer de couleur sont ses yeux.
Moi et moi, amour et amitié.
La corde rouge tu feras, orage de colère tombera, mon âme tu garderas, Tom.
Mélange de culture irrésistible, petite fille, ange mi-démon.
Moi et elle, mille et moi, amour et amitié.
Magique, inoubliable, adorable.
bourrin.